débat de société, toutes les 4 semaines le lundi, c'est dans le vif du sujet. 18h, un sujet, un débat sur Radio Campus Paris.
Bienvenue dans le vif du sujet, votre émission de débat et d'échange sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, vu qu'on va y parler syndicalisme et monde ouvrier. Et cela à travers l'exemple du port du Havre et ses dockers. Pour en parler, je reçois en plateau Martin Thibault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en sociologie. Parmi vos thématiques de prédilection, on retrouve le monde ouvrier et l'engagement syndical. Avant de commencer, nous allons tout de suite faire un passage par le port du Havre. On écoute tout de suite le chant des docks, réalisé en 2021 par Nils Laloé et moi-même.
Je dis toujours, on ne peut pas demander à quelqu'un de comprendre quelque chose qu'il n'a pas vécu. C'est impossible. Tu sautais de conteneur en conteneur, il faisait moins 4, tes conteneurs étaient gelés. J'étais à 18 mètres de haut, 20 mètres de haut. Si tu glisses, tu gères mal ton truc et tu passes de l'autre côté du conteneur, t'es mort. Et il est 6h du mat. T'es dimanche.
Le Chant des Docks, un podcast de Nils Laloé et Simon Bulbaudin.
Plusieurs concours de circonstances m'ont fait à un moment, y compris Laurent, qui est juste à côté, qui m'a dit « Mais tu sais, il y a un âge limite à partir duquel tu ne peux plus rentrer. » Et là, c'est limite. Et en ce moment, ils recrutent parce qu'on est en manque, on est en manque de personnel. Et ce serait con de ne pas essayer. Fais-le. Si ça ne te plaît pas, bah, tu te tires. Mais ce sera dommage de passer à côté. Et je dis « Bon, il a raison, on connaît. » Je vais essayer, et puis bah, ça me plaît pas, merde, je me barre, quoi. C'était il y a 15 ans, et j'adore mon boulot, en fait.
Alors, je suis Laurent, j'ai 41 ans. Ça fait 23 ans que je travaille sur le port du Havre, et aujourd'hui, je suis contremaître à l'attraction portuaire.
Alexis, 42 ans, docker depuis 15 ans.
Laurent et Alexis sont dockers, aux côtés d'un historien, d'un officier maritime, et des habitants du Havre, vous allez entendre un port et sa ville, à jamais liés, dans une même sonorité.
Donc là, nous sommes à la capitainerie, donc la capitainerie du grand port maritime du Havre, qui est située à l'entrée du port. Alors Arnaud Gogli, je suis officier de port, je suis en charge de la partie aval. Juste à côté, il y a une grande tour qui est au-dessus de nous, que les Havrais surnomment le sémaphore, qui est la vigie. Le port du Havre, il court jusqu'à Tancarville, donc ça veut dire à peu près à 30 km d'ici. Avoir réaménagé ces quais, là, les quais de Southampton, ça a permis à tout le monde de reprendre possession de ces quais-là. Avant, c'était pas un endroit de balade, c'était un parking. Là, aujourd'hui, c'est un lieu de balade génial.
Bonjour, oui, je suis du Havre, depuis 62 ans, pour tout vous dire. Mon mari est ancien docker, donc je vais pas dénigrer le port, non. Il fait peut-être partie d'une génération de docker qui n'existe peut-être plus vraiment maintenant.
Le port, c'est quand même des petits corporatismes. Hein. Les dockers sont une congrégation assez, on peut presque dire, fermée. Hein.
Beaucoup de trafic, etc.
De père en fils, voilà. C'est une histoire de famille, les dockers.
Moi, mon grand-père, il était docker. Du coup, je vais peut-être avoir ma carte de docker, d'ailleurs.
En plus, le père, il est docker. S'il veut, il travaille pas, mais il sera quand même docker.
Les dockers, c'est des gens qui bossent pas.
Ce qui revient souvent, c'est que même des amis proches me l'ont dit, j'étais trop payé pour ce que je faisais.
Puis surtout, on est payé. Dans l'inconscient des gens, on travaille très peu et on est millionnaire. Voilà. Bon, l'un est faux, l'autre est absolument, totalement, complètement ultra faux. Oui, mais j'ai le cousin de l'ami d'un pote qui connaît un docker qui m'a dit ça. C'est drôle.
Donc le rôle des dockers, en fait, c'est de voir, en fait, de s'occuper que toute la chaîne logistique se déroule bien.
Alors oui, effectivement, nous, un bateau va arriver à quai avec souvent déjà des containers sur le dos et en cale. Il va être déchargé dans un premier temps et il va être rechargé avec des containers qu'on a en attente, justement, qui vont être réexpédiés un port export. Et ces containers-là sont pris par des grues, qu'on appelle des portiques, des espèces de grandes grues qui vont décharger ces containers-là à terre. Et moi, mon but en tant que chauffeur cavalier, c'est de récupérer ces containers-là pour aller les ranger dans un parc à containers, en fait. Il y en a qui se voient vraiment comme, je le sais, qui se voient vraiment comme des marins là-dessus, et d'autres qui se voient vraiment comme des terriens. Et moi, vraiment, j'ai cette impression d'entre-deux, quoi. De travailler sur terre, au ras de la mer, tous les jours. Et quand on a certains temps, quand c'est la tempête, et que t'es dans une cabine de plexi à 18 mètres de haut, la tempête, tu la sens. Tu la sens, t'es juste protégé de la pluie, mais tu la sens vraiment. Tu fais partie de la tempête quelque part à un moment. Moi, vraiment, c'est ça, t'as les pieds sur terre, mais t'as la tête vers la mer.
Et donc, moi, personnellement, l'histoire de ma famille sur le port, ça remonte à mon grand-père paternel, qui, à la fin des années 60, commençait à travailler. Et quand le travail est devenu plus fréquent, ils ont commencé à donner les cartes de docker, en fait. Et c'est mon grand-père qui a eu la carte de docker, ce qui a permis à mon père et mes oncles de pouvoir rentrer sur le port quand ils avaient 18 ans, et à moi et mes cousins après, à la fin des années 90. C'est comme ça qu'on a pu rentrer sur le port, c'est grâce à mon grand-père paternel.
Moi, c'est un peu différent, j'avais pas cette envie particulière de rentrer là-dedans. J'ai connu plein de vieux qui sont morts avant d'être en retraite, qui sont morts de l'amiante,
qui ont travaillé dans l'amiante pendant des années.
Pendant des années, mon vieux est parti avec le plan amiante, parce qu'il avait plus d'amiante dans les poumons que de tabac, et pourtant il fumait beaucoup.
Dans l'entreprise par elle-même, on a des cousins germains qui s'appellent les dockers, et pour eux, c'est, bah, si on meurt, tant pis, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis Patrick Bertrand, ingénieur retraité du grand port maritime du Havre, où j'ai fait une grande partie de ma carrière. Quand on voit les photos anciennes, les gens n'avaient pas de chaussures de sécurité, ils n'avaient pas de gants, il n'y avait pas de casque, il n'y avait même pas de tenue particulière. Les gens, ils posaient le vélo le long du mur, et puis ils allaient bosser comme ça. Et leurs conditions de travail étaient quand même un petit peu compliquées, quoi. Ils portaient des sacs de 50 kg sur le dos, à longueur de journée, ça posait aucun problème. Maintenant, c'est interdit, bref. Il voyait bien que les gars avaient les dos cassés, l'argent à la retraite, il voyait pas beaucoup, que c'était pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de dockers dans les jardins ouvriers à la retraite. Historiquement, ça se comprend aussi. Au 19e siècle, quand les patrons ont commencé à rendre un petit peu esclaves un peu tous les dockers, ils se sont regroupés en syndicats. Avant, ils étaient, comme on dirait aujourd'hui, des auto-entrepreneurs, quoi. Ils vendaient leurs bras au jour le jour. Pendant longtemps, il y avait des dockers qui étaient des singes, qui montaient, hein, et puis de temps en temps, blam, tombe, meurt. Bon, il ne retombe pas chez lui.
On accumule énormément de fatigue à cause de nos horaires, à cause de la tension qu'on doit donner en permanence, du moment où tu rentres sur un terminal au moment où tu ressors. Bon, je suis quand même un beau bébé. Je fais 1m82 pour un bon 90 kg. je me suis jamais senti comme une crevette, si tu veux, entouré, même dans les boulots que j'ai fait avant. C'est la première fois, et pendant les premiers mois dans lesquels j'ai travaillé, je me suis senti vraiment comme une fourmi. Je me suis dit, je suis une toute petite fourmi. Et c'est la première fois que je me sentais aussi vulnérable, en fait, dans un environnement. Parce que tout est en acier, tout est mobile. C'est un organisme vivant en acier, quoi. Vraiment, c'est le porc. Et là, tu te dis vraiment, moi, je suis rien du tout, un grain de poussière. On me voit pas, si on me percute. À la fin, je suis rentré en me disant j'étais dans un milieu où j'ai tombé que sur des grosses brutes, ça va être dur dans les rapports, ça va être dur dans le travail. Je vais faire ça un temps jusqu'à ce que j'en prenne trop plein la gueule au niveau physique, au niveau moral aussi, parce que c'est this is a man's world, comme disait James Brown. C'est vraiment ça. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, on n'est pas, il y a plein de choses différentes. Par contre, je n'ai pas le choix, faut que je lui donne ma vie. Il a sa vie entre mes mains. Il a ma vie entre ses mains, pardon. Si déconne, je meurs. Si je déconne, il meurt. Il y a une fraternité incroyable que je trouve magique. On est tous syndiqués. C'est comme ça. On doit, pour cette unité, on doit être syndiqués pour se maintenir.
Voilà, et notre mauvaise image aussi vient de ça, en fait de cette unité syndicale.
Ouais.
Qui fait que pour la presse, pour le grand public, voilà.
On est les derniers, on est les irréductibles gaulois, si tu veux.
On est les derniers bastions de la CGT, et la CGT n'a pas bonne presse. Mais on
reste des ouvriers.
Donc pour le futur, on est plutôt optimiste.
Il faudra toujours une place pour les dockers, parce que tu peux pas remplacer tous les humains par des machines, comme on disait. On changera, on évoluera, comme on disait.
Martin Thibault, pour commencer et pour faire suite à ce qu'on vient d'entendre, les dockers sont-ils des ouvriers comme les autres ?
Alors c'est une question qui n'est pas très simple. En même temps, l'intérêt de ce documentaire, c'est de donner à voir une figure contemporaine du groupe ouvrier. On a souvent l'impression que les ouvriers sont de plus relégués à une vision un peu passéiste du groupe ouvrier dans la métallurgie, dans les mines, qui sont des secteurs en grande difficulté, voire qui pour certains ont disparu en France, alors que la réalité ouvrière aujourd'hui, c'est que c'est presque un cinquième de la population active. Et que dans les figures contemporaines, on pourrait trouver justement les dockers, on pourrait trouver les ouvriers de la maintenance, on pourrait trouver des ouvriers de la logistique, qui sont des secteurs qui se développent assez rapidement, et particulièrement ici, chez les dockers, dans le port du Havre, qui est un port qui concentre presque deux tiers du commerce extérieur en France, et qui a un flux extrêmement important, parmi les plus importants d'Europe.
Et pour revenir à la logistique, les dockers, c'est vraiment des personnes vraiment très importantes en fait pour la société de consommation dans laquelle on vit actuellement, par rapport au flux de marchandises.
Tout à fait. Alors les dockers, c'est comme les ouvriers de la logistique qu'on trouve par exemple chez Amazon ou dans les grandes surfaces, ou qui ont une centralité très forte aujourd'hui dans notre économie, qui correspond à ce qu'on appelle souvent le capitalisme de plateforme, où on a particulièrement besoin de ce genre de salariés. Alors ça fait partie des salariés aussi, un bon moyen de se rendre compte de l'utilité sociale des emplois, c'est de voir quels ont été ceux qui ont été en activité en partie pendant la crise du coronavirus. Bon, en fait, ça faisait partie des secteurs où il fallait continuer à faire venir les marchandises pour pouvoir remplir les supermarchés, pour pouvoir approvisionner un certain nombre de denrées, particulièrement utiles pour pouvoir nourrir sur le territoire français, transporter des marchandises essentielles au fonctionnement de l'activité économique.
Et c'est cette importance des dockers qui leur permet d'avoir un poids si considérable. On sait qu'ils sont beaucoup syndiqués. C'est plutôt le fait qu'ils soient syndiqués qui leur permet de revendiquer des droits, ou c'est plutôt le fait qu'ils ont un poids très important pour notre société française?
Alors, le taux de syndicalisation dans des secteurs comme ceux-là, c'est souvent lié particulièrement à des histoires spécifiques de ces secteurs. Les dockers en France a souvent été un secteur très syndiqué, avec une capacité de blocage particulièrement importante, des forces de mobilisation très, très fortes. Il y a des ports particulièrement célèbres pour la conflictualité sociale. Je pense aux dockers de la CGT à Marseille, juste après-guerre, alors que le plan Marshall doit passer par Marseille, qui est un enjeu stratégique extrêmement important pour l'après-guerre. Je pense aux dockers de Brest, qui ont été étudiés notamment par l'historien Michel Pigenet, qui sont des types de dockers qui ont assez vite pris conscience du poids de leur activité dans le fonctionnement économique et de la capacité à pouvoir s'organiser collectivement pour défendre un secteur d'activité, des conditions de revenus, un type de statut d'emploi, qui sont des choses qui permettent de protéger l'emploi, et particulièrement, le documentaire le dit bien, pour un type d'emploi qui présente beaucoup des caractéristiques des emplois ouvriers, qu'un emploi extrêmement difficile physiquement, un emploi où il y a beaucoup d'accidents du travail, beaucoup de risques sur la santé des salariés au quotidien. Et donc, il est logique d'une certaine manière que ce soit un secteur qui, depuis très longtemps, se soit beaucoup organisé avec un taux de syndicalisation relativement élevé.
Et en parlant de syndicats, est-ce que la CGT prime sur les autres dans ce milieu-là ?
Alors moi, je connais mal l'histoire des dockers du Havre en particulier. Ce que je peux dire quand même, c'est que la CGT a une centralité importante. Il y a des syndicats aussi autonomes chez les dockers, mais que ça fait partie des secteurs historiques quand même qu'on a retrouvés à la CGT. Donc on parlait tout à l'heure du plan Marshall d'après-guerre et de la grève des dockers de Marseille. Bon, c'est les conditions d'émergence de FO à l'époque, hein, justement, de créer un syndicat concurrent pour pouvoir fragiliser une CGT qui était très dominante, et une mairie qui menaçait à l'époque de tomber dans les mains des communistes juste après-guerre, qui en faisait un enjeu stratégique très fort.
Et pour revenir au syndicalisme plus largement, il s'est développé aussi vite dans les autres secteurs en France ?
Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours très lié à l'histoire spécifique des secteurs, aux formes d'organisation et aux formes d'implantation. Ce qu'on peut dire en France, c'est qu'il y a une accélération très forte de la syndicalisation dans l'entre-deux-guerres, et que le moment 36 est un moment extrêmement fort. On a beaucoup parlé du nouveau front populaire quand il y a eu les élections législatives anticipées. La grande différence entre le front populaire de 36 et le nouveau front populaire, c'est que le front populaire de 36 est d'abord une victoire syndicale. On oublie, on ramène souvent ça à une vision un peu d'en haut, où la victoire électorale d'une courte tête de la gauche unie sans le Parti communiste, qui est dans le gouvernement Blum ensuite, aurait permis de gagner. Et ce qui permet de gagner, d'avoir des avancées considérables, c'est le fait qu'au moment de la victoire électorale, il y a plus de 2 millions d'ouvriers qui occupent leurs usines. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir avoir, dans le monde ouvrier, aussi une prise de conscience que la lutte paie. On va avoir énormément d'acquis, de conquêtes sociales très fortes qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui, les délégués du personnel, bien sûr tout ce qui fait l'histoire de 36, les congés payés, la semaine de 40 heures, on passe quand même de la semaine de 48 à 40 heures, une augmentation des salaires de presque 12% après, qui va engendrer une vraie ruée syndicale. Les ouvriers découvrent que ça marche, donc on a des taux de syndicalisation après 36 et au sortir de la guerre extrêmement forts. Dans des secteurs comme la métallurgie, c'est presque 80%, dans les mines, c'est presque 70%. Et on l'oublie souvent, la CGT après-guerre, qui est un acteur extrêmement puissant avec des communistes qui sont le premier parti aux législatives d'après-guerre. La CGT, c'est presque 5 millions d'adhérents sur 20 millions d'actifs, c'est-à-dire un quart dans les Bouches-du-Rhône, où le plan Marshall doit passer. C'est 58% des salariés du département qui sont syndiqués à la CGT, qui en fait un acteur central du mouvement social en France et des conquêtes sociales. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 000. Voilà, rien que la Fédération des métaux de la CGT en 1946 avait plus d'adhérents que la CGT aujourd'hui.
Et bon, même si parfois on ne trouve pas forcément ces réponses-là, mais vous aviez peut-être une explication sur pourquoi le syndicalisme a tant reculé en France ?
Alors, il y a plusieurs choses qui vont jouer. La première, qui est à mon avis centrale, c'est une volonté très forte du côté de l'État et du champ du pouvoir de fragiliser cet agent dominant qui était la CGT après-guerre. C'est tout un tas de circulaires qui sont mises en place après-guerre pour renforcer le pluralisme. L'émergence des FO, l'autonomisation de la Fédération de l'Éducation nationale, la création de la CGC, donc la Confédération Générale des Cadres, avec tout un tas d'ordonnances qui sont faites pour revenir sur des textes pour leur permettre d'exister, avec, et bien sûr, la CFTC qui existait depuis quelques années, qui va avoir son poids renforcé à ce moment-là. Avec cette idée que la CGT est un acteur beaucoup trop remuant et qu'il va falloir pouvoir enfermer de plus en plus le syndicalisme, et beaucoup des transformations législatives de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui vont aller dans ce sens-là. L'enfermer dans la sphère de l'entreprise pour empêcher d'avoir une dimension politique du syndicalisme. Donc on parle souvent de la charte d'Amiens des deux jambes du syndicalisme, d'avoir un projet de transformation sociale autonome sans s'en référer au champ politique, et une lutte, comme le dit le texte, contre les empiétements du capital, donc lutter contre les agressions dans le marché du travail, sur le monde du travail et le marché du travail au quotidien. Là, il y a vraiment l'idée de supprimer une des jambes du syndicalisme, et beaucoup des transformations qui vont être faites vont être des transformations qui vont faire de la négociation et de la négociation d'entreprise l'alpha et l'oméga du syndicalisme aujourd'hui. Et beaucoup de confédérations, beaucoup d'acteurs du paysage syndical vont prendre ce chemin-là. Alors, FO très vite, la CFDT va avoir une parenthèse enchantée, je dirais, dans les années 70, d'un syndicat très à gauche, très novateur, qui bouscule les frontières du syndicalisme, avant de vite se replier sur la sphère de la négociation d'entreprise dans les années 80 pour arriver à la situation d'aujourd'hui. Et des attaques très très fortes également contre le statut d'emploi des salariés, qui font qu'effectivement, se syndiquer aujourd'hui, c'est d'abord avoir un CDI, la plupart du temps, être dans une grande entreprise où la présence syndicale est avérée. Voilà un chiffre parmi d'autres, mais dans les TPE, il y a presque 70-80% des TPE qui n'ont aucune présence syndicale. Donc les militants syndicaux sont surtout concentrés dans des grandes entreprises et dans des secteurs publics la plupart du temps, parce que les attaques contre les droits des salariés et les attaques contre les statuts d'emploi qui permettent de se sentir protégés et de se syndiquer ont été très très largement renforcées sur les 20 dernières années.
Et on va marquer tout de suite une pause musicale et on va rester dans le sujet car on écoute tout de suite La puissance du port du Havre de Médine.
Junior à la poitrine zamé. Il peut y avoir qu'une seule beba dans la city d'Edouard Philippe. Comme y'aura qu'un seul doudou, c'est mon daron, pas le maire ni le ministre. On participe pas à leur victoire, on va s'asseoir dans le jury. Je te souhaite la bienvenue au Havre, autrefois appelé Francisco Police. On m'a circoncié dans un immeuble, enterré mon prépuce sous l'herbe. Je croyais que Michael Jackson dans Billy parlait de mon Cléon Bilel. Puis j'ai appris que j'étais coloré, que les Havrais n'avaient pas collaboré, que le Bédo transitait par les douaniers et que le Bédo CB c'était Bolloré. Océane, Viking, je me garde en bataille sur le parking. Les skins sont partis, on les a chassés dans les 90s. Ici on aime tellement pas les balances qu'on veut pas être témoin de mariage. Leur ville est faite en faïence, c'est la ville du Havre est faite en marbre.
Ma ville et moi en vrai on est les mêmes, on s'est fait bombarder pendant la guerre. On est pris pour les plus laids dans la presse, on vit entre le béton et la mer. Entre le patrimoine et les quartiers délabrés, mon cul est international, mais mon petit cœur est havré.
La puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre, la culture de la bicrave. La puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre, la culture de la bicrave.
La puissance, la puissance,
la puissance du port du Havre.
La puissance, la puissance,
la puissance du port du Havre.
La puissance, la puissance,
la puissance du port du Havre.
La puissance, la puissance,
la puissance du port du Havre.
Alphonse Mendy, c'est pas Alphonse Brown. J'te monte en l'air, grosse mise à l'amende. Sur le blason, c'est la salamande. Rien à foutre que le dessin judiciaire me ressemble. De toute façon, je reconnais pas l'infraction. Sur le PV, je signerai un autre nom. Si tu joues les gros poissons ici, tu vas finir par devenir de la nourriture à poisson. Quartier, en deuil. On a perdu un rider. Docker, dans le fleuve. C'est la saison de The Wire. Et les rodéos de Baltimore. J'aime quand les vagues frappent l'Atlantique Nord. On reçoit la coque sous blister. Bel et que les SP collent pas de traceurs.
Ma ville et moi en vrai on est les mêmes. On s'est fait bombarder pendant la guerre. On est pris pour les plus laids dans la presse. On vit entre le béton et la mer. entre le patrimoine et les quartiers délabrés. Mon cul est international, mais mon petit cœur est havré.
La puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre, la culture de la bicrave. La puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre, la culture de la bicrave. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre.
C'était la puissance du port du Havre de Médine.
Le vif du sujet. Radio Campus Paris.
On est de retour dans le vif du sujet où l'on parle aujourd'hui syndicalisme et monde ouvrier. Et nous sommes toujours avec Martin Thibault, enseignant-chercheur en sociologie. Martin Thibault, je voulais revenir avec vous plutôt sur les conditions de travail des dockers. Alors dans le documentaire, on a entendu que les dockers du Havre avaient vu leurs conditions de travail s'améliorer en une centaine d'années, on va dire, en un siècle. Est-ce qu'on peut constater la même chose sur le monde ouvrier en général, où les dockers ont obtenu un gain de cause plus rapidement, on va dire, pour l'amélioration de leurs conditions de travail et même d'emploi plus largement?
Alors après, ce qu'on entend sur les dockers et ce qu'ils disent de leurs conditions de travail correspond quand même globalement à des fortes constantes du travail ouvrier. Le port de charges lourdes, la répétition des gestes, le fait que c'est des métiers dans lesquels il est difficile de vieillir parce que la charge de travail est importante. On a souvent une vision un peu fantasmée de la mécanisation où les conditions de travail s'amélioreraient. En fait, en France, la mécanisation et la robotisation a surtout amené à être de plus en plus soumis au rythme de la machine. Donc ça s'est souvent traduit par une accélération des rythmes de travail. Ce qu'on constate globalement sur le monde ouvrier, notamment depuis les années 80, c'est à la fois une suppression, en tout cas un certain nombre de pertes d'emplois en termes de statut d'emploi et un certain nombre de secteurs qui ont été bazardés. Et on a vu le nombre d'ouvriers diminuer dans ces secteurs, qui s'est accompagné parallèlement d'une dégradation très rapide des conditions de travail. Et il se trouve que comme on s'intéressait pendant très longtemps surtout aux ouvriers quand ils étaient à la porte de leur usine et qu'ils luttaient pour la préservation de l'emploi, on a beaucoup oublié de s'intéresser dans ces années 80-90 qui ont été charnières et puis ça s'est accéléré depuis à la dégradation extrêmement rapide des conditions de travail et qui fait qu'on retrouve aujourd'hui des grands dénominateurs communs du travail ouvrier, la pénibilité, le port de charges lourdes, la difficulté physique, la répétition des gestes et la soumission à un contrôle hiérarchique permanent.
On entendait aussi que les dockers, avant, étaient soumis à des conditions d'emploi très complexes. Hein. C'était des journaliers, en résumant. C'était pareil dans les autres secteurs, il y a 100 ans, ça aussi?
Alors oui, on parlait tout à l'heure de 36, parmi les grandes conquêtes du marché du travail, les grandes conquêtes du monde du travail, il y a notamment la possibilité de dépasser ce statut, comme on disait au 19e siècle, de travailler au jour la journée, quoi, c'est-à-dire sans aucune visibilité, sans aucune possibilité de se projeter. Bon, voilà, c'est la plupart des conquêtes sociales de 36 et surtout de l'après-guerre, de la période qui court grosso modo de l'après-guerre jusqu'au milieu des années 70, qui vont permettre de pouvoir améliorer la condition de travail, la sécurité sociale, la prise en compte des risques du travail, la création de caisses de chômage, qui vont permettre aussi aux ouvriers de pouvoir penser l'avenir. Bon, c'est pas un hasard, c'est les moments où les ouvriers commencent à accéder pour certains à la propriété, pouvoir s'acheter des logements, qui permettent d'avoir une vision et une représentation de l'avenir particulièrement importante. Depuis les années 80, particulièrement des années 90, on a une détérioration très forte des conditions d'emploi, notamment l'augmentation très forte de l'intérim, le recours au CDD, à tout ce qu'on appelle les emplois atypiques, qui font qu'on revient de plus en plus à une représentation très lié au 19e siècle du travail au jour la journée. Si vous faites, par exemple, dans certains secteurs extrêmement précarisés, où on a des missions courtes d'intérim, et que vous passez une semaine avec un ouvrier intérimaire pour comprendre ses conditions de travail, vous allez vous rendre compte qu'il a très peu de visibilité de l'avenir, qu'il passe beaucoup de temps, quand il ne travaille pas, à chercher un emploi, et que quand il n'est pas en activité, il est de toute manière en activité pour essayer de trouver un prochain job à pouvoir occuper. Et donc là-dessus aussi, beaucoup de terrain a été perdu avec une dégradation très forte des conditions d'emploi et mine de rien, les ouvriers à statut qui avaient certaines protections, certaines conquêtes qui ont permis de les protéger se retrouvent de plus en plus fragilisés. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les RATP qui est aujourd'hui un secteur qui est en première ligne de cet éclatement des entreprises publiques.
Alors là, je vais revenir au docker. Alors, c'est une question que tout le monde se pose, mais bon, et la réponse est difficile à trouver. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça se transmet de père en fils, les dockers ?
Alors, il y a beaucoup de secteurs ouvriers qui sont marqués par ce genre de transmission. Alors, si on raisonnait comme un sociologue, on dirait, bon, pourquoi est-ce que les profs ont souvent des parents profs ? Pourquoi est-ce que les musiciens ont souvent des enfants musiciens ? Et puis pourquoi, voilà, si on prend le cas du fils Sarkozy à Menton, pourquoi les enfants d'élus se présentent aux élections également ? Bon, c'est la force du monde social et la force de la reproduction. C'est-à-dire qu'on se retrouve très lié au destin de la personne qui nous précède. Pierre Bourdieu, il avait une bonne formule pour définir ce qu'on appelle la vocation. Et il disait, la vocation, c'est une ruse du monde social pour faire que l'on aille là où on devait aller en nous donnant l'impression que c'est toujours ce qu'on a voulu faire. Bon, on pourrait l'appliquer aux musiciens comme on pourrait l'appliquer aussi aux dockers. Et peut-être rappeler la situation particulière de l'emploi quand même dans ces régions où le port est central. Voilà, c'est presque 2800 dockers aujourd'hui au Havre, dans un contexte où les emplois dans la région ne sont pas si nombreux que cela. Donc en fait, on se retrouve vite à être attiré par les endroits où il y a quelques possibilités d'emploi. Et il se trouve qu'avec l'augmentation du commerce extérieur par le port du Havre, il y a eu quelques embauches ces dernières années. Donc, quand on se retrouve avec un bac pro ou un BTS sur le marché du travail dans cette région, il n'est pas dit qu'il y ait beaucoup d'autres possibilités que celle d'aller travailler sur le port.
Oui, parce qu'en fait, tout autour, c'est désindustrialisé, en fait, hein, comme région. Finalement, il n'y a plus que le Havre qui permet de faire un pôle d'emploi comme ça. Pour toute la région. Mais après il y avait une autre question sur c'est un monde dans lequel il est difficile d'entrer aussi. Pourquoi c'est si fermé comme milieu, les dockers, pas forcément au Havre, hein, mais en général, c'est un milieu un peu qui attire un peu les fantasmes des gens, dans lequel on a du mal à entrer. Vous avez peut-être une réponse pourquoi c'est un monde si fermé, ce monde des dockers?
Quand on est chercheur en sciences sociales, que ce soit en sociologie ou en histoire, on identifie souvent un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs en partie repliés sur eux-mêmes. Il y a une historienne des mines qui s'appelle Marion Fontaine qui disait ça très bien. Elle disait, moi je suis historienne des mines, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et en même temps ce qui se passe sous terre, on ne le sait jamais vraiment. Parce qu'il y avait un côté où c'était des univers relativement tus, où le silence des pères était particulièrement important. On ne racontait pas exactement ce qui se passait parce que c'était aussi un moyen d'encourager la reproduction. Bon, si on disait exactement aux enfants ce qu'ils les attendaient sous terre, la plupart du temps, ils n'avaient pas très très envie de descendre. Bon, chez les dockers, il y a sans doute aussi une dimension comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement quelles sont les conditions de travail, comment ça va s'organiser, et puis ce sont des univers extrêmement fermés d'un point de vue matériel, par l'organisation du travail. Vous avez dû vous en rendre compte en allant enquêter sur place, rentrer sur des endroits comme cela, c'est particulièrement difficile, c'est particulièrement sensible pour un certain nombre de secteurs, notamment pour l'exportation. Le Havre, c'est par exemple un port où il y a beaucoup d'exportations de produits de luxe, notamment vers les États-Unis. Donc il y a aussi cet enjeu-là, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi fermé d'un point de vue matériel par l'organisation du travail. On a un peu de mal à pouvoir y accéder et à savoir comment ça se passe concrètement à l'intérieur. Et puis, dernier point, ce sont des univers très masculins, où la parole n'est pas toujours centrale, mais où il y a une reproduction d'une forme d'éthos ouvrier. On ne parle pas tant que ça, mais on tient. Le travail est difficile, mais il faut le tenir, qui fait que ce n'est pas également les meilleures conditions pour qu'on puisse dire précisément quelles sont les conditions de travail et l'organisation du travail au quotidien.
Et alors, pour conclure cette émission, comment on pourrait mettre ça en comparaison, la situation des dockers avec le monde ouvrier actuel ? Est-ce que le monde ouvrier va bien en ce moment ou il va mal ?
Alors, le premier élément, pour revenir sur quelque chose qu'on avait déjà dit, c'est que le monde ouvrier est encore particulièrement central dans notre société. Pour reprendre ce bon mot d'un sibylle sociologue qui était Coluche, le monde appartient toujours à des ouvriers à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Donc c'est un cinquième de la population active, c'est un quart des ouvriers qui ont moins de 30 ans, donc c'est un groupe particulièrement jeune et particulièrement central dans la société française, dans la structure sociale en France. Par contre, c'est un groupe qui est particulièrement menacé par les fermetures de sites, c'est le groupe qui est le plus exposé à la précarité de l'emploi, au recours aux contrats d'intérim, presque 80% des contrats d'intérim dont on parlait tout à l'heure sont réservés à des ouvriers et qui est marqué aussi par des plans sociaux très importants ces dernières années. On vient d'avoir quelques annonces sur des menaces extrêmement fortes sur l'industrie automobile en France, notamment avec les annonces de Stellantis qui ont été publiées il y a quelques jours et qui laissent craindre aussi des plans sociaux extrêmement importants comme on a pu avoir dans d'autres secteurs d'activité, comme on a pu avoir chez Michelin, comme on a pu avoir dans un certain nombre d'entreprises qui sont très menacées ces dernières années, sans qu'on se pose véritablement la question de politique politique industrielle en France et de conditions pour maintenir l'emploi dans des conditions décentes.
Pour revenir là-dessus, il était question, c'est pour ArcelorMittal, si je ne dis pas de bêtises, de nationaliser, non ? J'entendais les politiques parler de ça.
Oui, alors c'était toujours pareil, c'est dans une niche parlementaire, et donc en fait, c'est toujours un moment d'un débat pris dans une espèce de niche plus générale qui fait que la possibilité de le mettre en place derrière est souvent beaucoup plus compliquée que la victoire politique et syndicale qui avait été annoncée à ce moment-là. Et
ça serait une bonne solution
Alors, moi, je déplore particulièrement, quand on fait des enquêtes d'opinion aujourd'hui, que la question des nationalisations ne soit jamais présente dans le débat public, qui est pourtant un enjeu particulièrement central. Bon, quand vous étiez dans les années 80 et que vous posiez des questions clivantes sur la société française et sur l'opinion de la société française pour peu qu'il existe, on s'interrogeait beaucoup sur ce qu'on pensait des nationalisations. Bon, il se trouve que ça n'a pas du tout été à l'ordre du jour après la crise de 2008, alors qu'on a investi énormément d'argent public, notamment dans le secteur bancaire. On aurait tout à fait pu se dire que quand on renflouait les caisses de banques privées pour pouvoir leur permettre de continuer à exister, on aurait pu tout à fait les nationaliser en même temps. On a souvent l'impression, dans ce contexte-là, qu'on a un système aujourd'hui qui nationalise les pertes et qui privatise les bénéfices. Et la question des nationalisations me paraît importante aussi pour pouvoir préserver et aussi réussir à tenir en partie, en dehors du marché, un certain nombre de secteurs stratégiques. Bon, il y a très peu de débats, notamment sur les enjeux énergétiques, alors que ça pourrait tout à fait être crucial dans les prochaines années.
Et ça sera le mot de la fin. Merci Martin Thibault. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sociologie, spécialisé dans le monde ouvrier et l'engagement syndical. Et bien sûr, un grand merci à Corentin Mérieux à la réalisation, sans qui cette émission n'aurait jamais pu exister. Et comme toujours, un grand merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Vif du Sujet. On vous laisse en bonne compagnie sur Radio Campus Paris.